Pensez-vous qu'il y a du monde qui sont en train de préparer des complots contre vous dans votre dos? Non, pas de vrai. Pensez-vous qu'il y a du monde qui sont en train de comploter dans votre dos? Non, pas de vrai. Il faut tout dire, parce que si vous voulez aider les gens à réfléchir, si vous voulez aider les gens à réfléchir et à comprendre leur réalité, vous devez tout dire, vous comprenez? Vous devez tout dire. Alors, quand quelqu'un vous dit, ou bien quand quelqu'un croit qu'on est en train de comploter dans son dos, quand quelqu'un croit qu'on est en train de préparer secrètement une action hostile, néfaste à lui, contre lui, que des gens sont en train de former des projets secrets, des projets mystérieux dans son dos. Alors, vous comprenez, hein? Donc, vous pensez qu'il faut tout dire? Ah, bien sûr, monsieur, bien sûr. Bien sûr, de plus en plus, hein. De plus en plus, les gens parlent du complotisme. Il y a des gens qui s'identifient au complotisme, hein, à la théorie du complot. Vous comprenez, hein? À la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y aurait une minorité qui serait cachée quelque part en train de monter des complots dans votre dos. C'est-à-dire, alors vous comprenez, hein? Vous comprenez? Alors vous acceptez pas tout ce que le monde accepte comme vérité dans la société. Ah non, vous n'êtes pas sérieux, hein. Vous pensez que tout ce que la société accepte comme vrai est la vérité? C'est de la naïveté, monsieur. Alors quand vous regardez les gens, hein. La société est fondée sur la loi du marché. Les sociétés occidentales, et on peut dire de façon générale, parce que ça fait longtemps que nous avons abandonné les sociétés de troc. Hein? Dans l'Antiquité, avant les temps modernes, avant le développement industriel, avant la révolution industrielle, les gens se troquaient les choses. Vous comprenez? Les gens se troquaient les choses. Alors, si vous observez les sociétés, et que les sociétés sont campées autour du marché, autour des lois du marché, alors vous devez vous poser des questions, à savoir si nous vivons dans des sociétés de grande compétition ou bien si nous ne vivons pas dans des sociétés de grande compétition. Alors, si vous pensez que tous les gens sont gentils sur le marché, qu'il n'y a personne qui essaye de s'approprier du marché, de contrôler le marché, hein, vous comprenez, hein? Alors, si vous vivez dans des sociétés qui sont fondées sur la loi du marché, et que le marché est fondamental, et que les marchés définissent la compétition entre les gens, et que les gens sont en compétition l'un contre l'autre, alors, si vous pensez que tout le monde est gentil sur ce marché et que vous pouvez faire confiance à tout le monde, c'est de la naïveté, vous comprenez? C'est de la naïveté. Alors, entre les pays également, entre les régions, entre des races, même si on essaie de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de race, mais toute l'économie mondiale, tout le développement s'est fait sur la base de la race, et que vous n'êtes pas capable de dénoncer cette réalité-là, et que vous pensez que les gens sont gentils, que les pays sont gentils, et que les pays ont des amis, alors vous ignorez beaucoup de choses, monsieur. Vous ignorez beaucoup de choses parce que vous êtes quelqu'un de naturel, de simple, soit parce que vous n'avez pas de l'expérience, soit parce que de façon naturelle chez vous. Alors vous faites confiance aux gens. Si vous faites confiance aux gens, Dans ce cas-là, vous devenez naïf. Et si vous êtes naïf, alors vous n'êtes pas capable de résister aux lois du marché. Parce que la loi du marché oblige la compétition entre les gens, entre les individus, entre les entreprises, entre les pays. Voilà, c'est pas pour rien qu'on ne cesse de dire que les pays n'ont pas d'armée. Les pays n'ont pas d'amis. Alors si vous êtes un peuple, si vous êtes un pays et que vous pensez que tous les gens au niveau international sont gentils, alors vous devenez quelqu'un de très naïf. Vous comprenez cette première partie, puisque nous sommes en train de vous emmener ailleurs. Nous sommes en train de vous diriger vers quelque chose de fondamental, de comprendre ce qui régit nos comportements, ce qui régit les rapports entre les pays, ce qui régit les nations, ce qui régit les rapports des entreprises avec des entreprises. Alors, si vous n'êtes pas naïf, alors vous pouvez comprendre, vous pouvez vous défendre. Mais si vous êtes naïf, comme je l'ai dit, par inexpérience ou de façon naturelle, alors vous pensez que tout le monde est gentil. Alors vous allez vous faire écraser par ce système de marché, parce que les gens, ils connaissent les lois du marché, ils connaissent les règles du marché. C'est de la compétition, la compétition est ouverte. Alors voilà la situation qui se présente. Alors quand vous me posez la question, si je peux croire, si je peux penser qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de comploter dans mon dos, et que le fait de ne pas croire, le fait de douter qu'il puisse avoir des gens qui sont gentils, qui sont... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous êtes capable de croire, si vous pensez que les gens qui sont autour de vous, ils veulent votre bien, alors vous devenez naïf. Évidemment, on va vous traiter de complotiste si vous croyez qu'il puisse avoir des gens qui sont autour de vous et qui sont en train de vous attaquer, qui sont en train de mener des actions secrètes. Alors, vous allez croire tout ce qu'on vous dit. Parce que, il faut bien saisir, hein, le complotisme ou le conspirationnisme ou le conjurationnisme, c'est quelqu'un qui recuse la version. D'ailleurs, voilà la définition du dictionnaire. Voilà la définition du dictionnaire. Et c'est cette définition qui nous pose des problèmes également. Il faut aller au profond pour comprendre ce qu'on veut vous, ce que vous devez comprendre, ce qui est largement reconnu par la grande majorité. Il faut bien comprendre la définition que l'on donne. Si vous cherchez dans les dictionnaires, pourquoi, quand vous trouvez quelque chose, comme on dit chez nous, si certains animaux étaient très, très importants, on les trouverait pas à chaque coin de rue. Alors voilà l'essence de la chose. Alors quand vous trouvez des informations trop faciles, quand vous ne réfléchissez pas vous-même sur les choses, alors vous absorbez tout ce qu'on vous donne et vous les prenez comme la vérité. Alors comme je l'ai entendu dernièrement, quelqu'un qui disait et qui se posait la question concernant la Bible, quand les gens vous disent que vous devez trouver Dieu par la Bible et que seulement il faut seulement lire la Bible pour pouvoir découvrir Dieu, le pasteur a dit, et je partage cette idée avec lui, il a dit, Jésus n'avait pas de Bible quand il était là. Les apôtres n'avaient pas de Bible quand ils vivaient aux côtés de Jésus. Alors comme où est-ce qu'il trouvait Dieu? Comment arrivait-il à trouver Dieu puisqu'il n'y avait pas de Bible? Et que la Bible est arrivée après les années 300. Alors, si la Bible est arrivée après les années 300, ça veut dire qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Alors, les gens ne cherchaient pas Dieu à travers la Bible. Vous cherchez Dieu à l'intérieur du temple de Dieu. Vous devez chercher Dieu à l'intérieur du temple de Dieu. Et c'est vous qui êtes ce temple de Dieu. Alors vous comprenez, hein? Alors vous comprenez que vous devez chercher Dieu à travers vous, à travers vos yeux, à travers vos regards. Vous devez trouver Dieu dans l'autre, dans le regard que vous portez sur les autres. Vous devez trouver Dieu dans tout ce qui vous entoure, partout où vos yeux se posent. Vous devez trouver Dieu là-dedans. Vous devez trouver Dieu dans le brin d'herbe. Vous devez trouver Dieu dans le grain de sable, dans une goutte d'eau, dans un rayon de lumière, dans un rayon de soleil. Voilà où est-ce que vous pouvez trouver Dieu. Vous devez trouver Dieu à l'intérieur de vous et à travers tous ceux qui vous entourent. Alors si vous recherchez Dieu, ne vous attendez pas seulement à aller trouver Dieu dans la Bible. Bien sûr, il y a des textes qui sont importants. Vous pouvez les lire, vous pouvez les trouver. Vous pouvez trouver une certaine explication, une certaine compréhension à travers la Bible et à travers tous les livres sacrés, que ce soit le Coran ou peu importe, que ce soit les textes, les lois de la Mahat. Vous pouvez trouver Dieu un peu partout. Et surtout, recherchez Dieu à l'intérieur de vous, à travers vos propres expériences, à travers votre propre réalité de ce que vous vivez, de ce que les autres vivent autour de vous. Alors, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, alors pour vous éveiller à une nouvelle façon de philosopher, pour vous éveiller à une nouvelle façon de questionner la société qui nous entoure, nous devons nous baser sur tout ce qui est déjà dit, de tout ce que nous avons seulement à notre disposition et que habituellement nous essayons de prendre comme les seules vérités. Il n'y a pas de vérité dans quoi que ce soit. Partout, la vérité est partout. La vérité est partout. Dieu est partout. Dieu est tout autour de nous. Dieu est à l'intérieur de nous. Alors, si vous saisissez cet aspect-là, cet aspect fondamental pour celui qui décide de chercher Dieu, n'attendez pas que ce soit votre pasteur qui vous révèle la vérité. Cherchez cette vérité par vous-même. S'il est capable d'aller comprendre quelque chose dans un texte sacré, vous aussi, vous êtes capable d'aller chercher par vous-même dans un texte sacré et trouver la compréhension qui est importante pour vous. Alors, si vous saisissez ça, alors quand vous me posez la question, à savoir si je crois qu'il peut y avoir des gens qui complotent dans mon dos. Je peux croire, parce que j'existe, je suis humain. Et si je suis humain et que je suis conscient de l'environnement dans lequel je vis, où les lois du marché règnent, et que cette loi du marché impose, oblige de moi à être en compétition avec les autres et avec tous les autres, alors je ne peux pas être naïf. Si je peux comprendre par moi-même, si je peux découvrir qu'il y a une compétition féroce qui existe, même si on ne veut pas le dire, même s'il y a des théories qui arrivent pour pouvoir prouver l'absence de race, mais au plus profond, il y a tout un système qui a déjà été fondé sur la base de la race. Parce que s'il n'y avait pas ce système fondé sur la race, sur des préjugés, on ne pouvait pas aboutir à cet essor. On ne pouvait pas aboutir à cette inégalité entre les peuples et entre les races. On ne peut pas aboutir à cette idée où il y a le développement d'un côté et il y a le sous-développement de l'autre côté. Il y a certaines personnes qui ont donné toute leur force, tout leur courage, qui avaient déjà été mises en esclavage et qui subissent aujourd'hui encore les séquelles de l'esclavage, les séquelles de la discrimination. Alors vous comprenez, quand vous vivez dans des sociétés qui sont fondées sur la compétition par les lois que ces sociétés ont créées elles-mêmes, alors vous comprenez, vous ne pouvez pas être naïf, vous ne pouvez pas ignorer vos expériences de vie, parce que vous devez comprendre que s'il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui agissent dans l'ombre, qui essayent de défendre toujours leurs intérêts. Et s'il y a des groupes, des pays qui défendent leurs intérêts, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir garder les privilèges qu'ils ont, parce que ils se sont fondés, ils se sont construits sur la base de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors si vous comprenez ça, si vous saisissez et que vous êtes naïf et vous pensez que vous devez être naïf et que vous devez croire que les gens sont gentils, que les gens sont bons autour de vous, alors vous n'êtes pas bien placé pour pouvoir défendre vos propres intérêts. Alors c'est ça la réalité qui est imposée à nous. il y a les lois du marché, il y a des projets personnels, il y a de la compétition entre les gens, entre les pays, entre les entreprises. Et si vous comprenez qu'il y a cette compétition entre les gens, entre les entreprises, alors il n'y a personne qui est innocent sur le marché. Sur le marché des biens, sur le marché des relations internationales, sur le marché des rapports économiques. Alors vous devez comprendre, quand quelqu'un vous dit que c'est un défaut d'être complotiste, c'est-à-dire il veut que vous soyez aveugle, il veut que vous soyez naïf. Voilà pourquoi on vous associe toujours à la naïveté. On associe l'enfance à cette naïveté. Bien sûr, nous pouvons être naïfs. Nous devons être naïfs de temps en temps. Nous devons avoir cet élan de naïveté chez nous qui nous permette de créer et d'inventer des choses. Parce que la naïveté, c'est-à-dire qu'on peut croire et que ce que nous avons vu dans notre tête, dans notre imagination, ce que nous sommes capables de concevoir à partir de notre cerveau, que nous pouvons le réaliser. Alors si nous croyons, si nous gardons cet aspect positif de la naïveté, alors nous allons être toujours créatifs, nous allons toujours créer des choses que nous voulons, nous allons créer le monde à notre semblable à notre imagination. Alors voilà le côté positif de la naïveté. Mais pour le reste, on ne peut pas être naïf parce que nous savons que nous vivons dans des sociétés compétitives. Nous vivons selon des rapports compétitifs entre les gens, entre les individus, entre les entreprises, entre les pays, entre même les continents. Alors, vous comprenez quand quelqu'un me pose la question pour me demander si je peux croire, si je crois qu'il y a quelqu'un qui peut être dans mon dos, en train de comploter dans mon dos. Alors, je ne peux pas me permettre d'être naïf et de croire qu'il y a personne, que tous les gens sont gentils. De toute façon, un monde, une société, un monde où il y aurait des naïfs, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de service secret. Alors s'il y a des services secrets, c'est parce qu'il y a des intérêts. Et s'il y a des intérêts, c'est parce qu'on sait qu'on est en compétition avec les autres. Et s'il y a des compétitions et qu'il y a des services secrets, ça veut dire qu'il y a une lutte pour l'hégémonie mondiale. Et cette lutte pour l'hégémonie mondiale doit être gagnée et il sera gagné toujours par ceux qui ne sont pas naïfs. Alors voilà pourquoi nous pouvons douter toujours des gens, mais sans être exagérés dans notre... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous pouvons être un peu naïfs, mais nous ne devons pas exagérer cette naïveté. Alors, là où vous travaillez, vous allez voir les gens qui sont en compétition, ils sont tellement en compétition, ils deviennent aveugles. Voilà encore les limites de cet aveuglement. Parce que les gens, ils pensent que tout le monde leur veut du mal. Tout le monde veut les attaquer, tout le monde veut les détruire. Bien sûr, nous pensons que nous devons être assez éveillés pour pouvoir surveiller nos propres intérêts. Mais des fois, nous ignorons également les gens qui nous apportent de l'aide. Nous ignorons les gens qui nous apportent de l'aide. Mais bien sûr, nous le comprenons. Comme nous le disons et nous croyons que nous vivons dans des sociétés à grande compétition, où les compétitions se font entre les pays, entre les individus, entre les sociétés, entre les entreprises, entre les continents, entre les races même, puisque nous constatons qu'il y a des inégalités, qu'il y a des différences énormes, qu'il y a des pays développés, qu'il y a des pays sous-développés. Alors quand vous cernez tout ça, vous ne pouvez pas être naïf. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être exagéré dans vos suspicions sur les autres. Voilà ce qui fait toute la différence. Alors, si vous comprenez ce que j'ai dit, vous comprenez que il y a des critères. D'ailleurs, il y a des critères. Alors, on peut même se rapprocher. D'ailleurs, dernièrement, j'ai croisé quelqu'un par hasard. J'ai croisé quelqu'un par hasard. Une dame qui me parlait et qui croyait qu'elle était attaquée partout. Elle portait même des vêtements comme une sorte de d'antibal. Elle portait des choses qu'elle portait comme des foulards. Pour m'expliquer, voilà, c'est ça qu'elle a essayé de me passer comme message. ou bien, comme je le dis souvent, j'apprends toujours avec tous les gens, hein. J'apprends beaucoup plus avec les gens. Des fois, quand je vois les gens qui veulent me parler, je les écoute beaucoup plus. Je fais toute attention pour ne pas les déranger jusqu'à ce qu'ils terminent tout ce qu'ils veulent me dire. Alors, j'ai croisé cette dame qui me parlait qu'il y aurait un complot qui se ferait dans son dos, ou bien que les gens, qu'il y a des minorités qui sont cachées derrière des complots. Alors, elle croyait qu'elle était attaquée. Elle croyait que quelqu'un pourrait se cacher quelque part en train de pointer sur elle des rayons laser. Qu'elle croirait que des gens pourraient même aller se placer dans des chambres d'hôtel en hauteur. Elle croyait même que des gens pouvaient même se placer dans des voitures à vitre teintée pour pouvoir projeter sur elle des rayons ultraviolets. Alors, quand j'ai entendu la dame, elle m'a parlé, et que je regardais chez elle, qu'elle portait des vêtements et qu'elle essayait de tout faire pour pouvoir créer des conditions pour empêcher qu'elle soit attaquée. Elle dit, comme elle m'a dit, on peut vous attaquer par les mains, on peut projeter sur vous des rayons. On peut projeter sur vous des rayons pour attaquer vos yeux. On peut vous attaquer de toutes façons et de toutes sortes. Alors, quand elle m'a dit ce genre de choses, j'ai compris. J'avais pensé qu'elle était paranoïaque. Alors, j'avais pensé qu'elle était paranoïaque un peu, parce que quand quelqu'un croit qu'on peut vous attaquer à tout instant, ça, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Parce qu'elle croyait qu'il y aurait des gens qui seraient cachés et qui la rendaient suspecte des autres. Et qu'il y aurait des gens qui voudraient l'exploiter, qui voudraient la tromper, qui voudraient la nuire. Alors, elle pensait également qu'elle pouvait être attaquée à tout moment et sans raison. Bon, elle dit qu'elle a une raison. Alors, vous comprenez? Alors, quand je l'ai écoutée dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle pouvait être paranoïaque. Et ensuite, j'ai pensé qu'elle pouvait être complotiste également, puisque c'est à la mode de croire que les gens pourraient l'attaquer. Alors, j'ai pensé au complotisme qui se développe actuellement, ou bien la théorie du complot qui se développe présentement et qui est complètement attaquée de tous côtés et de tous bords. Parce que les gens voudraient que nous ne soyons pas des complotistes. Les gens voudraient que nous soyons naïfs. Alors, j'ai compris que elle me parlait quelque chose, elle essayait de me dire quelque chose. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que je ne peux pas comprendre? Est-ce que je crois à tout ce qu'elle a dit, à tout ce qu'elle n'a pas dit? Ça, c'est la première réflexion qui m'est passée par la tête. Mais cependant, malgré ce caractère paranoïaque que je pourrais appeler son comportement, son attitude, malgré que je pourrais l'associer à cette idée de complotiste, mais je me suis rappelé dans ma tête à moi également d'avoir observé certaines personnes. Quand je me souviens d'avoir observé certaines personnes qui enquêtaient sur d'autres personnes et que j'étais témoin de constater ces choses-là et que je pouvais voir un agent, identifier un agent qui voudrait aller se placer à tel endroit et qui voudrait, à partir de là où il va être, il pourrait observer quelqu'un. Alors, quand j'ai rencontré souvent des gens qui observent d'autres personnes et que vous constatez qu'il y a des gens qui surveillent d'autres personnes, alors je reconnais bien sûr qu'il pourrait y avoir cette part de complotisme, qu'il pourrait y avoir cette part de paranoïa chez elle. Mais je me suis dit, Alors si j'étais capable d'être témoin de voir des gens qui essayaient de se placer à des endroits qui surveillent d'autres personnes, et quand je sais très bien que tout le marché, toute la réalité, toute notre réalité humaine est tournée vers le marché, et est fondée sur les lois du marché. Alors je me pose la question si je ne devais pas commencer si je ne pouvais pas commencer par réfléchir sur l'utilité de la paranoïa pour les services secrets, mais pour les services de contre-espionnage. Alors voilà ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui m'a toujours intéressé. Je cherche à savoir, à comprendre cette idée de la paranoïa, de son utilité, mais également de sa réalité, de saisir comment on peut utiliser cette paranoïa pour comprendre les gens et avoir complètement un comportement paranoïaque excessif dans tout ce que l'on fait, la suspicion exagérée. Et pour pouvoir entendre les gens et projeter cette image de la paranoïa, et pour pouvoir avoir le contrôle de notre propre comportement. Et que des gens et que des organisations secrètes, comme des services secrets, peuvent également vouloir produire chez nous, projeter chez nous, des conditions pour développer chez nous un sentiment de paranoïa. Alors quand vous êtes capable d'être suspicieux de tous ceux qui vous entourent, de comprendre de quoi les gens sont faits et la méchanceté qui est en arrière. Alors je disais dans ma tête, voilà un bon sujet à réfléchir, un bon sujet à discuter avec moi-même, dans ma tête, dans mon entendement. Voilà l'importance que j'accorde au discours des gens. Voilà ce qui me pousse à essayer de comprendre les gens. Et surtout quand les bons samaritains, quand les gens de grande générosité me croisent et partagent avec moi ce qu'ils vivent comme réalité, comment ils sont en train de créer leur propre réalité et qu'ils vivent dans cette réalité. Je cherche pas vraiment à aider ces gens-là, c'est pas mon rôle. Je peux juste les écouter, je peux juste les entendre. Je peux faire attention pour ne pas les choquer, pour ne pas les pousser à l'extrême, pour ne pas les forcer à réagir violemment contre moi. Ou ne pas les laisser sombrer également. Alors voilà ce qui m'a intéressé, voilà ce qui me préoccupe, de comprendre les gens et pour pouvoir comprendre les gens qui m'entourent. Je dois les écouter sans les attaquer. Je dois apprendre ce que je dois apprendre, parce que c'est la providence qui les a mis sur mon chemin. Ça me permet d'apprendre et de découvrir les gens. Mais ça me permet également d'évoluer au niveau de ma compréhension du monde, de la réalité que peuvent vivre certaines gens. Alors, ce faisant, j'écoute les gens et j'écoute généreusement les gens, parce qu'ils sont généreux à partager avec moi ce qu'ils vivent, ce qu'ils comprennent. Alors, si vous saisissez l'idée, alors en écoutant quelqu'un qui vous rapporte des choses, qui vous explique que certaines personnes peuvent l'attaquer et que vous pouvez constater par vous-même à partir de votre propre expérience de savoir dans quelle société que vous vivez et les critères selon lesquels vous vivez dans cette société et les conditions, les lois qui régissent cette société. Alors vous pouvez établir les liens, vous pouvez comprendre à partir de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vous rapportent, qu'il peut exister certaines choses. Alors vous pouvez comprendre, faire la distinction entre ce que certains pourraient accuser dans la société comme des complotistes, ils ne le sont pas. Certains qu'on pourrait accuser de la paranoïa, ou bien qu'on pourrait déceler chez eux des comportements paranoïaques. Mais quand vous avez tout ça en arrière-plan, quand vous avez tout ça en arrière-pensée, vous ne pouvez pas vous permettre de dire comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à l'opinion générale de la société. D'ailleurs, ceux qui s'embarquent dans la même société, ceux qui partagent les mêmes visions, les mêmes compréhensions du monde, ils n'arrivent pas à changer le monde. Ce sont ceux qui changent de chemin. Ce sont ceux qui inventent leur chemin qui changent le monde. Alors, c'est pas parce que vous faites partie de la grande majorité et que vous adhérez à l'opinion généralement admise par la société que vous allez changer ce monde. Au contraire, vous allez le tolérer, vous allez le subir, vous allez subir cette société. Voilà pourquoi les gens qui inventent des choses, les gens qui découvrent de nouvelles choses, ce sont des gens qui ont changé et qui ont choisi leur propre chemin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là qui changent le monde, qui sont capables d'avoir des convictions. Et pour pouvoir avoir ses propres convictions, vous devez faire des recherches vous-même, vous devez aboutir à des conclusions vous-même. Et c'est sur cette base-là, quand vous aboutissez à des conclusions par vous-même, à partir de vos propres recherches, de vos propres observations, alors vous pouvez changer le monde, vous pouvez améliorer le monde. Voilà ce que je crois, voilà les fondements de ma démarche. Alors, si vous comprenez, alors quand la dame m'a dit qu'elle se sent menacée et que quelqu'un serait en train de la... Elle m'a même sorti des choses, hein. Elle m'a même sorti des choses qu'elle a trouvées sur Internet. Alors, quand quelqu'un vous sort des choses un peu partout sur Internet, alors on peut trouver n'importe quoi sur Internet, mais alors vous comprenez, hein. Mais là, n'était pas la question. Ce qui était fondamental, ce qui était nécessaire à comprendre et à saisir, c'est de comprendre que certaines choses qu'on pourrait nous dire, qu'on pourrait associer au complotisme, ne l'est pas. Quelque chose qu'on pourrait associer à la paranoïa ne l'est pas. Parce que nous vivons dans des sociétés compétitives. Nous vivons selon les lois du marché. Et personne ne peut nous dire, même s'il y a une tendance quelque part, certaines tendances quelque part, qui voudraient que le monde revienne au monde du troc, que les gens s'échangent entre eux des produits, des services. Bien sûr, j'en ai parlé, j'ai même soulevé cette idée. Et j'ai même été membre d'une association, la Cordaire. Je me souviens avoir été membre de cette organisation, de cette association qui prônait le partage de services, le partage de biens. Mais très vite, j'avais compris que j'évoluais pas, que je pouvais pas évoluer dans une société où je ferais seulement du troc parce qu'il y a des choses plus complexes qui ne dépendent pas de moi. Il y a personne qui va me donner son logement pour me dire d'habiter dans son logement sans payer, vous comprenez? Qu'est-ce que je pourrais offrir au maximum à quelqu'un pour pouvoir habiter son logement? Peut-être que l'idée pourrait faire du chemin, peut-être que d'autres pourraient trouver mieux que moi pour pouvoir aider d'autres à comprendre comment arriver à cette société. Je comprends cette idée derrière laquelle qu'on pourrait se cacher, ou bien on pourrait se trouver, ou bien on pourrait se confiner pour pouvoir proposer des alternatives aux lois du marché, au marché même, à la limite. Mais je crois que le troc avait ses limites dans le passé. Aujourd'hui encore, le troc a encore ses limites. L'homme vivra toujours avec d'autres moyens d'échange. Peut-être qu'on trouvera d'autres moyens d'échange. On a amené la monnaie électronique, ça a facilité également les échanges. Mais la monnaie est encore au cœur de la société, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit réelle, qu'elle soit matérielle. La monnaie est encore utile. D'ailleurs, nous avons même soulevé quelques problèmes par rapport à la monnaie électronique, où on peut être suivi pour chasser parce qu'on peut être repéré à partir de l'utilisation de nos moyens de paiement. On peut être... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous saisissez cette histoire, si vous saisissez cette idée derrière, selon laquelle que ce n'est pas toujours vrai que les gens que l'on accuse de complotisme, parce que quand vous regardez pas vous-même, alors on peut projeter des rayons ultraviolets sur vous. Il y a des gens qui pourraient le faire parce qu'il y a de la compétition. Il y a des choses qu'on veut pas entendre. Il y a des choses qu'on ne veut pas que vous dites. Si on ne veut pas que vous dites certaines choses, alors il peut y avoir des groupes secrets qui sont cachés, des services secrets qui sont cachés derrière ces projets du genre. et que quelqu'un pourrait se placer dans son auto avec des vitres teintées et projeter sur vous. On peut même vous demander de vous dénuder devant tout le monde pour qu'on puisse projeter sur vous, pour qu'on puisse brûler votre peau comme elle a dit la madame. On peut brûler votre peau. On peut brûler vos mains. On peut paralyser vos mains, on peut paralyser vos jambes. Alors si vous portez des vêtements qui sont tout blancs, alors les rayons traversent les vêtements blancs. Alors si vous portez des vêtements blancs, alors les rayons vont traverser, mais si vous portez des vêtements noirs, les rayons ne traverseront pas. Alors vous comprenez, hein? C'est ce qu'elle m'a expliqué, la dame. Et qu'elle est capable de prendre des papiers d'aluminium ou des choses du genre, des affaires contre la chaleur. Vous pouvez porter des lunettes et on s'attaque à vos lunettes, on s'attaque à vos yeux. Et vous vous réveillez un bon matin, vous découvrez que votre lunette, s'il est en plastique, il peut être brûlé. Vous allez trouver un point brûlé dans votre lunette. Voilà, on peut vous attaquer à distance. On peut se placer dans des endroits, dans des cachettes pour vous attaquer. Voilà ce qu'elle m'a expliqué, la madame, voilà tout ce qu'elle m'a fait comprendre. Mais quand j'ai été témoin, puisque j'ai été témoin de certaines situations, de voir qu'il y avait des personnes qui pouvaient enquêter sur d'autres personnes et qui se cachaient ou bien qui essayaient de se placer à des endroits bien déterminés, à des heures bien déterminées, parce qu'ils savent que d'autres personnes vont arriver, certaines personnes qui cherchent à découvrir qui ils sont ou comment faire pour pouvoir les faire du mal. Quand vous avez été témoin de ça, alors vous devez être prudent. Sans être exagéré, alors vous pouvez prendre les précautions nécessaires. Alors vous allez démasquer certaines choses. Vous pouvez avoir l'esprit vif et dégager également une certaine naïveté. Mais cette naïveté doit être mesurée, tout comme votre peur exagérée, vous devez calmer cette peur pour que cette peur ne devienne pas un problème pour vous-même, pour contre vous. Alors quand vous êtes capable de vivre tout ça et que vous êtes capable de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde féroce, où les gens sont devenus méchants, que les gens sont extrêmement méchants, ils sont prêts à vous détruire, ils sont prêts à vous manger, ils sont prêts à vous tuer. D'ailleurs, comme quelqu'un me l'avait dit, cette personne m'avait dit, nous devons être prudents de tout le monde. Tout en les faisant confiance avec retenue, nous pouvons être méfiants avec les gens qui nous entourent, parce que nos ennemis sont tout autour de nous. Nous ne connaissons pas celui qui se cache dans l'ombre pour nous attaquer, celui qui se cache dans un endroit secret pour nous attaquer, celui qui va louer une chambre d'hôtel pour observer d'autres personnes à distance, celui qui va rentrer dans une bâtisse pour pouvoir trouver une chambre qui lui donne un angle pour pouvoir projeter sur nous et nous surveiller. Voilà ce qui est réel, parce que nous vivons dans une société de compétition, nous vivons dans une société où ce sont les lois du marché et que chacun essaye de prendre le contrôle de ce marché, avoir le monopole sur ce marché. D'ailleurs, c'est la même chose entre les entreprises. Les entreprises ne se contentent pas seulement de vendre. Les entreprises cherchent à contrôler le marché. Ils veulent détruire les autres compétiteurs. Voilà la loi du marché, la jungle du marché, si on peut l'appeler comme ça. Alors même si dans la jungle, il n'y avait pas tout ça, d'ailleurs le mot jungle ne signifie pas que tous les êtres, toutes les espèces qui se trouvaient à l'intérieur de la jungle, dans la forêt, sont en compétition les unes contre les autres. Il n'y a pas cette conscience au niveau des animaux. Il n'y a pas cette conscience, ou peut-être on n'a pas encore trouvé cette conscience chez les animaux. Parce que les animaux vivent pour vivre. Les animaux ne se posent pas de questions. Les animaux ne veulent pas tout accaparer pour eux-mêmes. La loi des satiétés ne règne pas parmi les animaux. Quelques petits rongeurs, quelques petits animaux, ils arrivent à vouloir tout amasser, tout accumuler. Mais il y a toujours des objectifs, c'est qu'ils savent qu'il y a d'autres saisons. Vous comprenez, hein? Vous ne pouvez pas être la cigale qui chante toute la nuit, toute la journée, toute l'année. Vous devez être également la fourmi qui travaille dur et qui fait des réserves. Voilà ce qui est un comportement normal. Alors quand vous comprenez et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui dénoncent le complotisme, et ils ignorent une chose qui est fondamentale, c'est que le contraire d'être complotiste, le contraire d'être complotiste, c'est de la naïveté. Alors, ce qu'ils veulent, ils veulent que tout le monde soit des moutons de Panurge et que vous suivez la foule. Vous devez suivre la grande majorité, mais la grande majorité n'a jamais changé quoi que ce soit. Ce sont des gens qui bifurquent, ce sont des gens qui ouvrent de nouvelles voies, qui changent le monde. Ce sont ceux qui changent le monde, ce sont ceux qui doutent, qui changent le monde. On veut vous enlever votre capacité à douter du monde dans lequel vous vivez. On veut vous enlever cette capacité à être libre. Lorsque tout le monde a abandonné leur liberté au détriment d'un certain conformisme, d'un certain confort. Voilà le contraire de la liberté, c'est le conformisme. La véritable définition et opposition entre la liberté, c'est le conformisme. Ce n'est pas la soumission. La soumission vient du fait qu'on devient conforme. La soumission, c'est d'être conforme. C'est une marche à suivre. C'est un nœud. Donc, c'est une étape vers le conformisme. Mais la soumission se dégage parce que on était conforme. Parce qu'on avait accepté la conformité, parce qu'on avait accepté de suivre les autres, d'accepter que ce sont les autres qui disent ouais, que ce sont les autres qui dominent. Alors il faut se cacher derrière la foule pour se protéger. Voilà ce que on nous propose comme société actuelle. Mais si vous êtes dans ma vision de philosophie moderne ou bien de philosophie postmoderne, peu importe le nom qu'on pourrait l'appeler, parce que c'est toujours une philosophie actuelle. L'actualisation de la philosophie est nécessaire actuellement. De penser sur les grandes questions, sur les abandons. De réfléchir sur les nouvelles manières de voir le monde. Voilà ce qui est important pour moi. Moi, je me tourne vers cette nouvelle vision du monde. De questionner tout ce qui a été accepté par la société. De questionner, de remettre en question les colonnes du temple. Est-ce que le temple doit être toujours cette bâtisse des quatre murs avec un toit? Est-ce que le temple peut être quelque chose d'autre? Alors voilà tout ce qui est fondamental, voilà ce qui est nécessaire à saisir dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors, comme je vous le dis, hein, si vous me posez la question, si je crois qu'il y a toujours du monde qui cherche à comploter dans mon dos, ma réponse est simple. Parce que je suis conscient du monde dans lequel que je vis. Parce que je pense que je ne peux pas être naïf pour les autres. Je ne peux pas faire plaisir aux autres en devenant naïf. Et puisque je ne peux pas être naïf et que je ne peux pas accepter que je sois toujours sous couvert de la majorité et que la majorité a toujours raison. D'ailleurs, comme je l'ai dit souvent, je l'ai souvent répété, les foules sont souvent criminelles et inconscientes. Alors, quand les foules sont ensemble, les foules peuvent créer beaucoup plus de dégâts. Les gens sont inconscients et que chacun pense que c'est l'autre qui a posé le problème et qu'il n'est pas responsable. L'irresponsabilité est au cœur de toutes les foules. Voilà. On n'a jamais jugé des foules. Pourquoi on ne juge pas des foules? Parce que la foule est inconsciente. Mais il y a toujours des individus perturbateurs au sein des groupes, au sein des foules, qui agitent les choses et qui engendrent tout le monde, qui produisent des événements, qui produisent des phénomènes et qui font en sorte que l'inconscience collective finisse par détruire tout sur son passage. Voilà ce qui était fondamental. Alors si on vous dira un jour, et si les gens essaient de vous faire comprendre que vous devez être naïf et que vous n'avez pas ce n'est pas nécessaire de douter de tous les gens qui vous entourent. C'est Dieu qu'ils vous disent que vous vivez dans un monde où il n'y a pas de loi qui règne. Mais nous savons très bien, très clairement que nous vivons dans un monde de marché où les lois du marché, c'est la compétition. C'est-à-dire les gens cherchent à dominer le marché, à prendre le contrôle du marché, donc à prendre le contrôle de tous. Il y a toujours une minorité à l'intérieur du marché qui essaye de s'approprier de tout de ce marché-là, de contrôler tout sur le marché, parce que c'est ça la compétition. Quand on essaye de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de compétition entre les êtres humains, entre les pays, entre les gouvernements, qu'il n'y a pas de compétition au sein des sociétés, alors que on ne fait que vous dire que tout doit passer par des élections, il faut qu'il y ait des élections, les élections c'est de la compétition. Alors s'il y a des élections, il y a de la compétition, et qu'il y a toujours quelqu'un qui va gagner, qui cherche à gagner et qui veut gagner, il y aura toujours une minorité à prendre le pouvoir. Alors s'il y a des sociétés également, des pays qui ont des services secrets pour défendre leurs intérêts, alors il faut toujours comprendre qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui est en train de nous surveiller et qui peut devenir très criminel parce qu'il peut se permettre de nous attaquer de là où il est. Il peut se cacher sur les étages, il peut se cacher dans les hauteurs, dans les chambres d'hôtel, il peut se cacher quelque part dans une voiture teintée pour nous attaquer. Et également, ils sont au cœur de nous, ils sont autour de nous, ils sont tout proches de nous. Ils peuvent même venir nous parler, ils peuvent même vouloir nous parler, ils peuvent même vouloir devenir nos propres amis. Mais si nous n'avons pas cette retenue chez nous, et avoir cette suspicion, d'ailleurs comme le dit en espagnol, la verdad sospechosa, la verdad sospechosa, la vérité suspecte, disait Rubén Darío, si je me souviens bien, la vérité suspecte, la verdad sospechosa. En Haïti, on dit, pas de la fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on sent quelque chose, si notre intuition nous dit quelque chose, si nous ressentons quelque chose et que nous sommes capables d'aboutir à des évidences et découvrir que ces évidences peuvent produire des choses et que nous constatons qu'il y a des choses qui se produisent et que nous constatons qu'il y a un alignement, un arrangement de l'ensemble des étoiles et que toutes les étoiles ça a une ligne pour nous expliquer quelque chose. C'est Dieu qu'il y a du feu quelque part. C'est Dieu qu'il y a quelqu'un quelque part qui est caché quelque part pour nous rapporter des choses. Et s'il y a du monde qui nous parle, qui sont généreux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit souvent, hein. Et si je sors quelque chose du genre, c'est peut-être des fois pour dire merci à ceux qui nous protègent dans l'ombre. Et si les gens nous protègent dans l'ombre, il faut pas cesser de nous protéger dans l'ombre. Alors, comme le dit chez nous, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a toujours du feu quelque part. Pour qu'il y ait de la fumée, c'est parce qu'il y a du feu. Il y a eu une explosion quelque part. Alors voilà pourquoi nous prions et nous demandons souvent Dieu, et je vous invite à prier Dieu également, que ceux qui sont cachés dans l'ombre pour nous attaquer, Seigneur, tu t'en prends à eux. Que ceux qui projettent sur nous, peu importe les choses, hein, que ce soit des rayons ultraviolets et autres, là, vous comprenez, hein, peu importe ce qu'ils peuvent vouloir nous faire du mal, du tort, alors nous demandons à Dieu de s'en prendre à eux par lui-même, parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils peuvent nous faire du tort, ils peuvent nous faire du mal, ils peuvent brûler notre peau, ils peuvent, peu importe ce que, comme disait la madame, ils peuvent brûler notre peau, ils peuvent nous attaquer jour et nuit, ils peuvent s'attendre à ce que quand nous ne sommes pas protégés pour nous attaquer, etc., etc. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand quelqu'un est capable de partager avec nous et que nous sommes capables de saisir l'essentiel dans ce qu'ils disent et que nos observations nous permettent, selon les faits, d'observer ce que certaines personnes peuvent nous rapporter. Alors nous constatons par nous-mêmes qu'il y a peut-être quelque part un lieu d'être plus prudent et de comprendre les gens. Voilà ce que la Providence nous apporte régulièrement et que nous profitons de cette Providence. Et que cette Providence ne nous a jamais abandonnés. Alors il y aura toujours des gens qui voudront nous attaquer, qui voudront toujours s'en prendre à nous. Mais il y a un Dieu qui veille. Comme disait le professeur René Durand, quelqu'un veillait sur nous. On a voulu m'assassiner, on a voulu me faire du tort, on a voulu me détruire, mais quelqu'un veillait sur nous. Voilà ce que le professeur Durand disait toujours. Quelqu'un veille. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous. Voilà le sens de la réalité. On voudrait que vous perdiez de vue cette réalité. On voudrait que vous cessiez de penser par vous-même. Parce qu'il y a des intérêts qui sont opposés à ce que vous dites, à votre discours. Parce qu'il y a des gens qui voudraient que vous soyez des assimilés. Vous comprenez, hein? Quelqu'un qui n'a plus de sens, qui n'a plus d'identité. Voilà ce qu'on voudrait. On voudrait faire de vous des soumis, des esclaves. Voilà ce qui est fondamental à saisir. Voilà ce qui est fondamental à retenir. Alors, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses que le monde dira toujours.